la communauté scientifique. Avec la pandémie de Covid-19, le grand public n'a eu de cesse d'entendre ce mot. Un gage de crédibilité et de sérieux pour d'un côté justifier telle ou telle décision publique et de l'autre pour accepter de les accepter. Mais, car il y a un mais, cette même communauté scientifique n'échappe pas à la défiance généralisée qui touche l'ensemble des institutions. Alors, comment resserrer les liens et renouer le dialogue entre la science, les sciences et la société? Comment les scientifiques peuvent-ils parler au grand public et surtout réussir à se faire comprendre? Y a-t-il de nouvelles façons de transmettre les connaissances? Je m'appelle Josepha Lopez, on en parle avec mes invités dans La Fabrique du Savoir, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France.
La Fabrique du Savoir.
Avec moi en plateau, donc trois invités pour ce podcast que nous enregistrons masqué. Cécile Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en chimie, vous avez été enseignante-chercheuse dans de nombreux établissements. Et il y a quelques années, vous avez bifurqué, comme vous le dites, en devenant journaliste scientifique. Vous avez écrit le livre « Vulgarisation scientifique, mode d'emploi » paru en 2014. Et avec votre société, aujourd'hui, Science et Partage, vous formez les scientifiques de nombreux organismes, comme par exemple le CNRS ou le CNAM, pour leur apprendre à parler en public. Et sur votre site, on peut lire « La science ne vaut que si elle est partagée ». On en parlera. Denis Savoie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, spécialisé en histoire des sciences. En plus de vos recherches, vous avez dirigé le Planétarium, le département d'astronomie et d'astrophysique du Palais de la Découverte à Paris et la commission des cadrans solaires. Rien que ça. Vous êtes aujourd'hui conseiller scientifique à Universcience, qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie. Et Marc Pacalin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers depuis juin 2020. Vous êtes aussi docteur en gériatrie et vous faites partie du pôle InfoSanté. Alors, ce pôle InfoSanté, c'est un partenariat original, entretenu depuis 1993, entre le CHU de Poitiers et l'espace Mendès France. Dans ce pôle, vous animez des tables rondes avec des familles, des malades, des chercheurs. Vous nous expliquerez. Bienvenue à tous les trois. Donc, au quotidien, tous les trois dans des domaines assez différents, vous êtes ou vous avez été en lien avec le public, avec la société. Comment définiriez-vous ce lien et est-ce qu'il a évolué ? Cécile Michaud.
Le lien avec le public, alors il y a déjà le fait de transmettre des choses au public, ça c'est notamment le rôle des journalistes dont je fais partie. Je pense qu'il y a aussi le fait d'écouter ce que dit le public et ce qu'il veut. Je pense qu'on ne fait pas de la bonne vulgarisation si on ne sait pas quels sont les a priori des gens, leurs connaissances, et puis surtout ce qu'ils ont envie aussi qu'on leur apprenne.
Marc Pacalin, vous êtes au contact de patients. Comment vous définissez ce lien et est-ce qu'il a évolué?
Là, c'est un exercice de style d'être avec le public. Alors, est-ce qu'il a évolué? J'ai peut-être pas beaucoup de retours, mais tout d'un coup, quand je parle en public, j'ai plus la blouse. Quand je suis avec un patient, il y a une appréhension, il y a un diagnostic, une thérapeutique en attente. Quand c'est en public, c'est un lien tout à fait différent. Il y a beaucoup moins d'appréhension et souvent, les personnes peuvent plus facilement exprimer leurs demandes.
On en parlerait, vous nous expliquerez justement comment vous créez ce lien. Et pour terminer, Dominique Savoie, vous, le lien avec le public dans le cadre d'exposition, comment vous le créez ce lien?
Alors, il a beaucoup évolué hein, au fil du temps. Vous prenez les musées scientifiques, pendant longtemps il n'y en avait qu'un, c'était le Palais de la Découverte. C'était le seul endroit où du grand public pouvait rencontrer des médiateurs scientifiques. Et à partir des années 90, on a eu une évolution avec le développement du numérique. Et ces musées de sciences, que sont la Cité des sciences et de l'industrie, ou le Palais des Découvertes, ou les autres centres de sciences en province, ont vu un petit peu leur aura un peu contrebalancée par ce que l'on trouve sur YouTube, par exemple, ou avec d'autres médias. En particulier, on est des compléments des journalistes, parce que la mission du Palais, ça a toujours été de vulgariser les sciences fondamentales ou de donner les clés au public pour comprendre les sciences fondamentales.
Ce niveau de confiance, ce lien dans les sciences, envers les sciences, est assez élevé. On le voit, le grand public fait confiance aux scientifiques. Mais il y a parfois des soupçons qui pèsent sur ces mêmes scientifiques, des soupçons sur leur objectivité, sur leur indépendance, sur leur capacité à extraire et à s'extraire de leurs intérêts particuliers. Est-ce que vous comprenez ces doutes et cette méfiance, peut-être en médecine?
Alors, je pense que c'est l'évolution dont vous vouliez parler tout à l'heure. C'est évident que maintenant, la population a accès à une source d'information immense et que, évidemment, un médecin, un scientifique qui a des résultats erronés, qui fait une publicité mensongère, ça fait beaucoup de mal. mais j'ose prétendre qu'il ne représente pas la majorité des responsables qui sont particulièrement attentifs à la qualité des résultats et aux méthodes qu'ils utilisent.
Denis Savoie, vous êtes historien en sciences, vous l'avez vu à un moment, ce petit décrochage qu'il y a pu y avoir et ce petit doute, cette petite défiance.
Il existe depuis toujours, hein. Vous prenez du temps de Galilée, quand Galilée affirme, après Copernic, le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, il n'a pas de preuves scientifiques. D'accord. Et donc, il y a tout un débat qui oppose des scientifiques de l'époque et pas des scientifiques neuneux, on va dire, hein, des gens de très bon niveau qui contestent cette affirmation de Copernic. Donc, la science, c'est aussi un débat. Ça va se finir par la condamnation de Galilée. Et c'est qu'un siècle plus tard qu'on va apporter la preuve du mouvement de révolution. Ça pour dire que les combats, entre guillemets, les disputes scientifiques, les argumentations, les contre-argumentations, ça existe depuis très longtemps. C'est sain et nécessaire dans la démarche scientifique.
Et le public était déjà, faisait partie déjà de ce débat ?
Alors le public à l'époque, non, il n'est pas du tout concerné. Voilà. Ça ne concerne qu'une minorité de gens. Et comme l'a dit Marc Pacalin, aujourd'hui, le fait qu'on ait accès via les médias à tout plein de publications, qu'on peut sur les réseaux faire savoir son opinion, ça multiplie par un facteur 1000 des petites querelles entre guillemets ou entre scientifiques. Ouais. Avant, ça n'existait pas. Mais je veux dire, c'était pas aussi connu plutôt. Mais ça existait au sein de la communauté. Et même dans l'Antiquité, on peut trouver des exemples de querelles scientifiques comme ça. Mais évidemment, aujourd'hui, ça prend des proportions qui peuvent être considérables.
Avec Internet et les réseaux sociaux, Cécile Michaud, vous vous servez peut-être d'Internet, des réseaux sociaux pour faire de la vulgarisation scientifique. Comment on trouve le juste milieu? Comment on réussit à mettre en avant son propos qui, lui, n'est pas celui des réseaux sociaux? Et du coup, hein, c'est un propos réfléchi.
Oui, moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je voulais revenir sur ce que disait Denis Savoie. Pour moi, il y a deux aspects qui sont assez différents. Il y a une controverse scientifique, et c'est sain, c'est comme ça que la science avance. Et puis, il y a parfois un certain consensus scientifique. C'est jamais un consensus total, mais souvent il est quand même très fort. Et il y a quand même de la défiance envers ces résultats scientifiques. Ça a notamment beaucoup été le cas dans le cas du réchauffement climatique, où il y a un consensus scientifique des climatologues. Et pourtant, il y a certains qui dénient le réchauffement climatique. Et là, c'est quand même complètement autre chose. Et c'est là où il va falloir faire œuvre de pédagogie. Et ça se comprend aussi, c'est-à-dire que quand la science dit des choses désagréables à entendre, du genre, y a un réchauffement, on en est responsable et il va falloir se bouger, c'est pas confortable de se dire, il va falloir changer notre mode de vie. Donc, c'est plus confortable d'aller renier ce que dit cette science.
Pour aller dans le sens de ce que dit Cécile, il y a au début du XXe siècle, lorsque Einstein parle de la relativité générale et la relativité restreinte, tous les physiciens ne sont pas favorables à cette vision. Il y a une très forte opposition. Il y a aussi le facteur temps qui est indispensable à l'acceptation par la communauté scientifique d'une grande découverte. C'est pas instantané, il n'y a pas consensus immédiat, et on le voit sur plein de découvertes assez récentes, également en cosmologie, ça met du temps à s'imposer. Ce n'est qu'au bout parfois de plusieurs décennies, voire un demi-siècle, on dit finalement il avait raison. Le temps est quelque chose d'essentiel dans les démarches scientifiques.
Alors qu'aujourd'hui on est dans l'immédiateté.
Et c'est ça le problème, on veut tout de suite, on croit que c'est A ou B, ben non. Ça demande du temps, ça peut être gris, jamais noir ou blanc. Et ça demande beaucoup de temps, il ne faut jamais perdre de vue de ça, c'est que les scientifiques, ils ont devant eux pratiquement toute une vie, et l'éternité on va dire. Et du coup, ça rentre en contradiction avec les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, où une nouvelle chasse l'autre, et puis ça n'a pas de sens ça. Aux scientifiques, ça se pose, surtout dans la recherche fondamentale.
Est-ce que c'est assez expliqué ça au public, justement cette notion de temps? C'est-à-dire que quand on voit une information tomber type un virus qui arrive, est-ce qu'on prend assez de temps pour leur expliquer « Ok, on a trouvé un virus, maintenant laissez-nous le temps de chercher ».
Je peux répondre en tant que journaliste parce que nous, on est vraiment entre les deux. C'est-à-dire on comprend le temps des scientifiques et nous, on doit agir dans l'urgence, on doit répondre dans l'urgence. Et je pense que ce qui est important, c'est d'aller dire au public « Aujourd'hui, voilà ce qu'on sait ». Voilà ce qu'on ne sait pas. Voilà ce dont on se doute, mais on n'a pas encore les preuves. Mais il y a quand même toujours des choses à dire sur ce qu'on sait, et le public, il attend ça. Et puis, dire ça, on ne sait pas, c'est important parce que ça va aller à l'encontre des, entre guillemets, charlatans qui iront prétendre qu'on sait ça.
Et après, ce n'est pas toujours comme ce que vous nous offrez aujourd'hui, un temps de parole assez long. Combien de fois on se retrouve à parler avec seulement quelques secondes, ou alors une minute va être conservée d'un quart d'heure d'échange. Et du coup, le vrai message que nous, on aurait voulu faire passer, il est un petit peu perdu. En tout cas, un scientifique digne de ce nom, c'est rare que son expérience il n'ait pas vérifié au moins deux fois.
Mais ce que vous dites sur le temps, ça me fait penser, j'ai vu récemment passer sur Twitter un message d'un scientifique qui dit « Non, je n'irai pas sur un plateau télé parler de ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud parce qu'on ne sait pas grand-chose. » Personnellement, je trouve ça dommage, je trouve ça important qu'un scientifique aille à la télé, même à ce moment-là, parce que c'est en ce moment qu'il y a une demande du public, et à y dire, voilà, on ne sait pas grand-chose, mais on peut quand même dire, voilà, ce qu'on sait là. Par contre, ça, on ne le sait pas encore, on travaille dessus, on le saura dans tant de temps, ou peut-être dans tant de temps. Mais c'est important d'aller porter cette parole-là, sinon, les scientifiques qui refusent d'aller dire ça laissent la parole à des moins forcément scientifiques.
Marc Paquelin, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Souvent, les scientifiques sont de plus en plus invités dans les médias ou en tout cas dans des sphères qui ne sont pas forcément scientifiques. La télé, la radio, les journaux. Mais ce sont des médias où il n'y a pas forcément les mêmes règles, les mêmes finalités que dans le monde scientifique. Comment on réussit à trouver sa place ?
Je pense qu'il faut une honnêteté par rapport à soi-même. Est-ce que je suis expert du champ ou est-ce que je ne suis pas expert du champ ? Est-ce que c'est l'attractivité des projecteurs ou est-ce que j'ai des choses à dire ? Bon, là, je pense que tout le monde sait faire le tri. Bien de mes collègues qui sont sur les plateaux ont quand même une expertise. Hein. Si on parle du Covid, en général, vous avez affaire à des infectiologues ou des épidémiologistes ou des réanimateurs. Donc, c'est quand même leur quotidien. Mais bien sûr, je crois qu'il ne faut pas forcément dire oui à tout. Parfois, prendre un petit peu de recul.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si le dialogue entre science, les sciences, hein, de façon globale, et société est compliqué ou est rompu, est-ce que c'est la démocratie qui est en jeu ? Denis Savoy.
À partir du moment où vous remettez en cause les sciences, alors ça fait partie du discours démocratique. Je ne pense pas que ça soit une remise en cause de la démocratie. Il y a des gens qui seront contre, toujours. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, même avec des arguments. Ce n'est pas la peine de perdre son temps. Essayez de leur démontrer le contraire. Et ce que dit Marc Paquelin, c'est tout à fait juste. Il faut d'ailleurs que les scientifiques se limitent à leur champ d'expertise, parce qu'il y en a qui prennent un peu trop la lumière et qui racontent n'importe quoi. Et je pense que ça décrédibilise certaines sciences qui ne sont pas absolument dures, comme la médecine un peu, qui est la limite, si vous voulez, sciences techniques. Mais la démarche des scientifiques doit l'expliquer. Non pas la science, mais le vrai. C'est quoi ? C'est quoi la science ? C'est quoi le vrai ? Le vrai, c'est indépendant de la personne qui va raconter son expérience, d'accord ? Quand on parle de la masse de l'électron, bah, c'est tous les scientifiques, tous les physiciens qui sont au Japon, en Australie ou n'importe qui, quelle soit leur race, leur religion, disent « bah oui, c'est ça, on est tous d'accord ». Et ça doit être ça le consensus en science. Et alors certains peuvent le remettre en cause, hein, il n'y a pas de problème, mais finalement, ça, avec le temps, ils finiront oubliés, je veux dire. Et c'est la science qui triomphera, bien sûr. Parce que c'est bien à la science qu'on est là tous les quatre autour de ces micros. Hein. Si on est en bonne santé avec des éclairages, c'est quand même la science qui a élevé l'humanité là où on en est. Ce ne sont pas les pseudo-sciences et les charlatans, bien sûr. Car qu'ont-ils apporté ? Rien.
Vous parliez de consensus. Souvent, quand on invite des scientifiques au sens large, à parler, à s'exprimer, on a envie, parfois, mais à culpa, quand on est journaliste, de créer du débat, alors qu'il n'y a pas toujours de débat dans le monde scientifique.
Ça dépend dans quel domaine. À partir du moment où, aujourd'hui, vous faites une découverte, vous allez faire une publication, dans les siècles précédents, c'était un ouvrage, évidemment, cette publication, vous la soumettez à vos pairs, et elle va être discutée. D'accord ? Alors, normalement, ils peuvent refaire l'expérience. Ce n'est pas toujours possible. Hein. Il y a des sciences comme l'astrophysique, on ne peut pas recréer une géante rouge dans son laboratoire. Mais bref, on va voir si c'est cohérent. Des fois, on peut se tromper. Et c'est ça qui est bien, si vous voulez, c'est que tous les scientifiques peuvent discuter d'une découverte. Et ça, c'est une sorte d'émulation. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Mais à partir du moment où elle est mise en avant vis-à-vis du public, c'est que normalement, elle a été validée.
Si c'est une discussion, c'est savoureux, c'est parfait, ça s'appelle un vrai débat. Il ne faut pas qu'on soit à vouloir convaincre quelqu'un ou s'opposer totalement à quelqu'un d'autre. Je crois qu'on a tous à apprendre et à donner les uns aux autres. Si c'est une discussion, ça ne me pose pas de soucis particuliers.
Moi, je dirais, ça dépend aussi sur quoi porte le débat. Si on prend l'exemple du Covid, il y a des faits qui sont le nombre de cas, ce genre de choses. Après, il y a évidemment débat, par exemple, sur la manière de combattre. Et là, il y a besoin d'éclairages multiples de différents professionnels et de gens issus de la société aussi pour dire bah, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce que finalement, le choix de la manière de lutter contre cette pandémie est un choix autant politique que scientifique.
Alors comment renouer ce dialogue, en tout cas s'il s'est distendu ? Chacun dans votre domaine, vous le faites. Marc Paquelin, donc vous êtes au quotidien en lien avec les patients et leurs familles. Comment vous vous adressez à eux, une fois, comme vous le dites, que vous avez peut-être enlevé votre blouse, pas votre masque encore, mais en tout cas au moins votre blouse ?
Oui, le masque, on le garde, ça c'est certain. Et c'est une vraie technique hein, de vulgariser, de faire comprendre son message. J'ai dû moi-même faire des erreurs. J'ai vu d'éminents collègues dire des choses extraordinaires, mais qui étaient incompréhensibles. Donc, sans aucune supériorité, c'est juste un problème de champ d'expertise. Il faut savoir mettre son dialogue, mettre son topo à la hauteur de ceux qui vont les écouter. Pour ma part, étant dans la consultation mémoire avec les patients avec des troubles de la mémoire et donc une maladie d'Alzheimer, d'un certain âge, avec des troubles neurosensoriels, il est évident que c'est un véritable effort que j'ai à faire pour leur permettre que mon discours soit intelligible, entre guillemets. Et donc, mon diaporama ne peut pas ressembler à celui que je présente aux étudiants.
Donc, par exemple, concrètement, vous ne faites pas quoi ou vous faites comment certaines autres choses?
Les termes, la nosognosie, j'oublie, un terme superbe. Si je commence en public à dire, vous savez, la nosognosie, bon, à la limite, si je l'explique derrière, les gens sont contents parce qu'ils ont trouvé ce mot et comprennent. Mais c'est du parler quotidien, entre guillemets. On est tout à fait capable d'adapter un discours très scientifique à un parler de tous les jours.
Vous êtes aussi doyen de la faculté de médecine et de pharmacie. Est-ce que vous formez vos étudiants à parler en public, à parler au public?
Insuffisamment. Mea culpa. Honnêtement... Depuis la pandémie, on a eu le temps de réfléchir à bien des choses. Et en tous les cas, dans nos études qui sont très très longues, on se rend compte qu'il y a des trous. Et celui de la communication, celui de la vulgarisation, on doit faire des progrès.
Cécile Michaud et Denis Savoie, vous confirmez peut-être ce manquement?
Clairement, dans la formation des scientifiques, il n'y a pas en général de formation à tout ce qui est vulgarisation, à communiquer simplement aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ça fait pas partie des attendus. Et en plus, c'est vrai que notre formation depuis l'enfance hein, en France est très basée sur l'écrit. Or, je trouve que l'écrit est assez élitiste en fait. Donc, si on veut s'adresser aux gens, il faut s'adresser aussi par oral. Les vidéos marchent très bien. Et nous, on n'a pas cette habitude de faire des exposés quand on est en primaire et tout, donc on n'a pas cette aisance. Donc certains l'ont un peu naturellement, mais la plupart, il faudrait qu'ils se forment.
Alors justement, très bonne transition forcément avec votre société Science et Partage. Vous coachez les scientifiques, une fois devenus grands, pour dire ça comme ça, pour leur apprendre à parler au public, leur apprendre à expliquer clairement leurs recherches, à susciter l'intérêt, à convaincre. Vous aviez constaté ce manque du coup?
Oui, clairement, je l'ai constaté. Donc, coacher plutôt, je les forme, on va dire. Hein, je leur fais des formations, soit moi, soit avec une collègue de télévision. Et on leur apprend les bases, hein, à avoir un message le plus clair possible, à connaître son public. Pas connaître que son niveau, mais vraiment connaître ses attentes, ses a priori. Voilà. Et puis, à lutter contre le jargon. Parce que ça, comme vous disiez, avec votre mot que j'ai même pas retenu, là, agnosie, voilà. Ça, c'est quelque chose de terrible. Qui, même si on l'explique en général, ce jargon, il éloigne les gens. Il donne l'impression que, voilà, c'est pas pour vous. On va être très haut perché. Donc, il faut, en fait, plutôt l'éliminer que l'expliquer. Voilà, plein de choses comme ça. Mais moi, je dirais, la base, c'est vraiment écouter le public, essayer de le connaître vraiment. Moi, je me rends compte, par exemple, en discutant autour de moi, mais même avec des gens plutôt éduqués, les aérosols, le rôle des aérosols dans le Covid n'est toujours pas compris. Parce qu'on n'a pas assez communiqué ou pas bien communiqué dessus. Mais c'est uniquement parce que je discute avec les gens que je me rends compte que c'est pas bien compris.
C'est-à-dire qu'il faut à la fois, effectivement, analyser son public, mais aussi écouter le retour qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que le dialogue, ce n'est pas un dialogue, finalement. On transmet un message et après, on n'a pas de retour.
Si on n'est que descendant, si on n'a pas de retour, on ne peut pas bien faire les choses parce qu'on se trompe. On se trompe sur le niveau du public. Déjà, souvent, on le surestime. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça veut dire juste que ses connaissances de base sont plutôt faibles parce qu'il a appris plein de choses, mais il a aussi oublié plein de choses. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se dire quels sont ses a priori parce qu'on ne construit pas sur un terrain vierge. Les connaissances qu'on en donne n'arrivent pas dans un cerveau vide. Ils arrivent dans un cerveau qui a déjà plein de connaissances, certaines justes, certaines fausses, certaines un peu déformées. Et tant qu'on ne connaît pas ça, on ne peut pas faire les choses bien.
Il faut remettre des bases.
J'ose dire que je m'améliore à chaque fois que je fais une conférence grand public. Il y a toujours quelque chose, une personne qui a intervenu et qui m'a apporté, qui, je crois, m'a bonifié.
Les chercheurs qui font pour la première fois des conférences très grand public sont toujours étonnés des questions. Preuve qu'en fait, ils ont un a priori souvent faux sur ce que pensent les gens.
Denis Savoie, vous êtes actuellement commissaire scientifique de la future exposition Explorer l'infiniment au Musée des Arts et des Métiers pour 2023-2024. Pour vous, vous m'avez un peu expliqué pour préparer ce podcast, la science, ce n'est pas du ludique, ça demande un effort intellectuel. Comment on prépare alors une exposition scientifique? On écoute aussi le public en amont? Comment vous faites?
Je partage absolument ce que disait Cécile Michaud sur le public. Il faut d'abord savoir le hiérarchiser. On ne s'adresse pas à une grand-mère qui vient avec son petit-fils au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences comme à ses pères qui sont en Master 2. Donc, on a aussi un rôle de formateur et on le voit aussi, ça se développe parmi les moniteurs, c'est-à-dire les gens qui sont en doctorat, d'accord, qui font 3 ans de doctorat. Ils peuvent faire une ou deux années de monitorat et on leur apprend ce que c'est que la médiation scientifique. Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à du grand public. Et comme disait Cécile, des fois, ils sont étonnés des questions qu'on leur pose. Donc, ces musées de sciences sont quelque part des phares, entre guillemets, des pôles de référence, à la fois pour le grand public, parce que je pense qu'on délivre une parole qui est rigoureuse scientifiquement, qui a été vérifiée, et on le fait de façon adaptée pour le grand public, et quel que soit son niveau. On peut avoir des gens qui ont été ingénieurs, qui sont en retraite, comme des gens qui n'ont absolument aucune connaissance scientifique. Alors, quand on prépare une exposition, on ne fait pas d'a priori, comme disait Cécile, sur les connaissances du public. Ils ont beaucoup oublié. Tout le monde a vu ce que c'était que la chimie, la physique, on a fait au collège, au moins peut-être un peu jusqu'au lycée. Mais il faut rappeler ces notions-là. Et dans l'exposition, par exemple, sur le Musée des Arts et Métiers, on a décidé de parler des neutrinos. Alors les gens disent « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une particule étrange. » Eh bien, c'est quand même au programme de lycée aujourd'hui. Donc on va faire des rappels, si vous voulez, sur toutes ces notions. Et on peut emmener le public très loin. C'est-à-dire que vous pouvez leur faire des rappels de base et ensuite amener le public, mais vraiment très très loin, à la limite, aux limites de la recherche actuelle, que ce soit en physique ou en biologie. On peut très bien expliquer au grand public ce que c'est que les CRISPR-Cas9, qui sont ces ciseaux moléculaires. Il faut leur faire plein de rappels en amont sur la biologie, le fonctionnement de la cellule.
Remettre des fondations.
Exactement. Donc c'est ça que font ces établissements scientifiques que sont le Palais des Découvertes et la Cité des Sciences et d'Industrie. C'est rappeler les fondamentaux. Et ensuite, on tire vers le haut et on peut amener les gens où ils veulent. On leur donne des clés. Après, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont armés.
Et donc, vous adaptez votre discours, en fait, vous avez peut-être un support de base, mais ensuite, c'est l'interactivité qui fait que...
Alors voilà, si vous voulez, dans l'esprit de Jean Perrin, lorsqu'il crée le Palais de la Découverte en 1937, c'est d'abord pour frapper les gens avec des expériences très spectaculaires. Tout le monde vient au Palais de la Découverte, savait qu'on avait les cheveux qui se restaient sur la tête avec l'expérience à 300 000 volts. Bon, ça, c'est pour rappeler les lois électrostatiques. Il s'est dit, pour bien faire comprendre aux gens la science, on va les frapper avec une expérience impressionnante. Et on fait des manips devant eux. C'est pas que du presse-bouton ou des livres. On a un médiateur qui leur explique qu'il y a une interaction et les gens peuvent poser plein de questions. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement s'adresser à des gens, à des petits-enfants, parce que, à mon avis, la science, on peut commencer assez tôt. Alors, il ne faut pas non plus aller en dessous de 6 ans. On n'apprend pas à un gamin de 6e à faire des équations différentielles. Mais on peut faire de la science dès le collège, leur donner des bonnes clés, et pourquoi pas susciter des vocations.
Alors, vous le dites justement, la transmission humaine, c'est très important. Pour vous, ça va au-delà, et on disait tout à l'heure, de peut-être l'écrit. Alors maintenant, la vidéo, YouTube se développe, mais c'est toujours bien d'avoir une vraie personne en face de soi. Comment on réussit à allier les deux pour être quand même dans la modernité qu'on connaît aujourd'hui?
Je crois que c'est complémentaire. C'est-à-dire que le journalisme, avec la presse écrite ou la vidéo, et quelqu'un qui fait des conférences scientifiques qui vont dans des maisons ou dans des théâtres ou dans des cinémas faire des conférences, et dans les musées de sciences, on a des scientifiques qui sont spécialement dédiés à la médiation scientifique. Je pense que rien ne remplace quand même quelqu'un qui est devant un tableau, devant un PowerPoint ou qui fait une manip devant vous, après à qui vous pouvez poser une question. Je pense que depuis les Grecs, parce que ça remonte là, la transmission humaine, c'est absolument fondamental. Et de façon complémentaire, il y a tout ce qu'on trouve sur YouTube, sur les MOOC, et pour les élèves et les moins jeunes, c'est un complément d'information indispensable, parce qu'on ne peut pas tout dire lorsqu'on fait une expérience de chimie, de physique ou d'astronomie. Après, les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent regarder chez eux, approfondir le sujet.
On parlait de vulgarisation scientifique tout à l'heure, Cécile Michaud, avec vous. Il y a toujours cette notion, que ce soit pour une exposition que pour de la vulgarisation, cette notion d'exigence. Comment on réussit à justement vulgariser en transmettant de l'information tout en étant accessible, sans oublier certains détails?
Alors on adapte et puis on n'est pas obligé de rentrer dans toutes les difficultés du sujet. Il y a certaines difficultés qu'on peut contourner aussi. Mais on peut faire de la très bonne vulgarisation pour 6 ans. Dans ce cas-là, évidemment, le vocabulaire sera très basique et puis les notions abordées seront très basiques. Et moi, je dirais, si on est capable de vulgariser pour 6 ans, après, on sait tout faire parce que c'est le plus petit niveau qui est plus difficile, en fait.
Marc Paquelin, je vous vois hocher de la tête, vous êtes d'accord ?
Je trouve que c'est bien quand on n'a pas tout dit, finalement. On a le droit de partir avec un peu de frustration, mais c'est pour le coup d'après. Moi, pour ma part, d'un support un peu descendant avec une conférence, un diaporama qui durait 1h30, maintenant, je fais quelque chose qui ne dure plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, pour aller solliciter les questions et voir vraiment ce que les gens ont envie de savoir, plutôt que quelque chose qui est tout de suite servi, réchauffé.
On parlait d'Internet, des réseaux sociaux, qui peuvent être utiles. En prenant des pincettes, il faut quand même faire attention. Marc Paquelin, vos patients, alors ce sont des patients âgés, mais on va dire les familles de vos patients peut-être, est-ce qu'elles viennent souvent avec des certitudes parce qu'elles ont lu telle ou telle chose sur Internet ? Et donc forcément, des fois, il faut expliquer ou déconstruire des propos.
Oui, la consultation en gériatrie est très longue parce qu'il y a de la souffrance. Souvent, les personnes ont totalement compris, mais bon, elles ont besoin quand même qu'on leur explique et puis surtout, elles ont besoin de comprendre pourquoi. Et donc, pardon, si je reviens à ma maladie d'Alzheimer, si je veux l'accepter, il faut que je l'ai comprise. Tant que je ne comprends pas la maladie, je ne l'accepte jamais vraiment, mais c'est impossible que je l'accepte et que je comprenne que mon proche présente ce déclin qui est peu acceptable. Voilà, donc amener les gens à comprendre. Voilà, et du coup, parler d'une manière intelligible pour que ça ne soit pas quelque chose d'inaccessible.
La loi de programmation de la recherche adoptée en 2020 porte l'ambition d'une science, je cite, « plus ouverte au service de la société et au plus près de nos territoires ». Est-ce que ça vous semble utile d'ancrer ce dialogue dans la loi ?
Absolument. La science, c'est la culture. J'ai toujours été étonné de voir que dans un dîner, si vous ne savez pas qui a écrit Les Misérables, vous passez pour un inculte. Mais si vous ne savez pas que Copernic a proposé l'héliocentrisme, là, on s'en fout. Voilà. Et donc, la science, c'est quelque chose de très important. C'est aussi important que la littérature, la poésie, le théâtre, etc. Et ça doit faire partie, ça doit être priorisé, à la fois dans les territoires et dans les programmes scolaires. Et on doit aussi valoriser les carrières des chercheurs. Parce que quand on voit combien gagne un jeune maître de conférence, on n'a pas tellement envie, quand on est jeune aujourd'hui, de faire une carrière de chercheur. Or, un pays qui n'a pas de recherche fondamentale, c'est un pays qui meurt. Donc, il faut qu'on continue de susciter des vocations. Il faut qu'on donne les clés de compréhension au public de la science. Et parfois, il ne comprend pas tout de suite. Hein. Parfois, il faut y revenir 3-4 fois avant de comprendre un concept. C'est quand même compliqué. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La science, c'est pas appuyer sur des boutons et s'amuser en courant dans un musée. C'est compliqué. Il y a une mathématisation derrière. Parfois, on ne comprend qu'au bout de quelques mois quelque chose. Donc, il y a un effort intellectuel. Il y a parfois même un sacrifice. Les jeunes qui font des études de sciences, il faut faire un sacrifice entre sa vie privée, s'amuser avec les copains et les copines et dire il faut que je taffe, quoi. Mais après, vous avez une carrière qui est devant vous. Vous le faites souvent par vocation, pas par intérêt de l'argent. On le voit bien dans les carrières.
Oui, Denis Savoie disait revaloriser les carrières de chercheurs et je rajouterais revaloriser la vulgarisation dans les carrières de chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, un chercheur ou une chercheuse qui vulgarise, c'est en général sur son temps libre. Parfois, ça peut être pas trop mal vu de sa hiérarchie, parfois tout le monde s'en fiche, parfois c'est au contraire mal vu, ça pourra nuire à sa carrière. Et ça, c'est fou quand même, parce qu'il y a besoin de science au plus près de la société, sauf qu'on ne donne pas les moyens à ceux qui produisent cette science de se rapprocher de la société.
Il y a un petit effort dans les appels à projets maintenant où on est supposé faire un paragraphe grand public. Mais là, on voit que bien de nos collègues font un super paragraphe, mais qui n'est absolument pas adapté au grand public. Donc on a de gros efforts à faire et tout a été dit sur l'importance de donner les moyens et de soutenir les chercheurs.
Ça conclura peut-être ce podcast sur le message qu'on pourrait passer au public quand vous entendez parler de science, quand vous voulez parler de science, des sciences. Quoi leur dire ? Que ça prend du temps de comprendre la science, que même si vous ne comprenez pas un mot, il faut essayer de creuser, aller voir des vidéos de vulgarisation scientifique, des articles pour essayer d'aller plus loin. Et aux patients, justement,
aucune question est inutile. Posez-la, reposez-la, jusqu'à ce que vous ayez compris la réponse.
Moi, je dirais, vous pouvez comprendre. Ne vous dites pas, oh là là, je suis pas assez intelligent, etc. La science, c'est pas pour moi. Si, c'est pour tout le monde. J'ai un peu de mal, moi, avec le message sur l'effort nécessaire pour la science. Je pense que, quel que soit le temps qu'on a, quelle que soit l'énergie qu'on peut y mettre, on peut aller retirer quelque chose en matière de vulgarisation. Il suffit d'aller trouver le bon support, celui qui est au niveau que l'on souhaite.
La science, ça commence par la nature, hein. Vous promenez dehors, vous regardez un arc-en-ciel, Vous regardez un canard sur une mare, vous allez voir un sillage avec un cône, mais pourquoi c'est un angle de 39 degrés? Donc là, on peut s'interroger, on peut aller dans des centres de sciences pour essayer de poser la question, on peut se renseigner aussi sur Internet, et on ne va peut-être pas tout comprendre d'un seul coup, mais en persévérant, je pense que n'importe qui peut y arriver. Et il y a d'excellents médiateurs qui peuvent vous faire comprendre des notions extrêmement complexes. Ça, c'est le véritable talent des médiateurs scientifiques.
Et peut-être un dernier message aux scientifiques, aux chercheurs qui nous écouteraient. Juste un dernier message, votre dernier conseil, comment mieux s'adresser au public pour être compris, entendu.
Moi, je dirais, ne mettez pas de côté vos émotions. On n'intéresse pas avec des explications. On intéresse d'abord avec des émotions. Une fois qu'on a capté le public avec ses émotions, on peut aller expliquer. Et parmi ces émotions, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'émerveillement. Les chercheurs, ils font des choses fabuleuses. Ils se rendent parfois plus compte, c'est dans leur quotidien. Ils travaillent avec des machines incroyables, ils regardent des galaxies, ils regardent l'infiniment petit et tout. Et puis, pour eux, ça devient banal. Et en fait, non, c'est incroyable ce qu'ils font. Il faut qu'ils aient, s'ils peuvent partager cet émerveillement, je trouve ça très, très beau.
Marc Pacalin, votre conseil alors à des médecins ou...
Affichez ce que vous faites et attisez la curiosité.
Faites de l'histoire des sciences dans chaque discipline. Vous allez voir comment on a compris tel tel concept. C'est toujours très sain de voir comment on est arrivé.
Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience qui était très enrichissant. J'espère que ce podcast vous a plu, à vous, auditeurs. Retrouvez 4 autres épisodes de notre série La Fabrique du Savoir, produite en partenariat avec l'Espace Mendès France, sur lemonde.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. À très bientôt.